Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un homme qui a fait de sa passion pour les légendes du cinéma et de la chanson une quête presque archéologique, j'ai envie de dire. Il s'agit de Thierry Luters. Il est à la fois historien, journaliste et auteur d'une espèce de pèlerinage des tombes de stars, on pourrait le dire. C'est un cheminement, c'est une quête. On pourrait aussi le présenter comme un explorateur des mémoires oubliées. Et un conteur de ces vies romanesques, ces vies qui ont marqué notre histoire, mais aussi notre culture. Alors après avoir sillonné la Belgique pour son livre « Dernier domicile connu », il est de retour avec un nouvel ouvrage, toujours aussi fascinant, mais aussi empreint d'émotion, « Star pour toujours », sur les tombes de 300 légendes du cinéma et de la chanson. Et dans cet ouvrage, eh bien, c'est un voyage à la fois intime et subjectif, de Johnny Hallyday à Jacques Brel, en passant par Dalida, Luis Mariano, Barbara, et bien sûr toutes ces stars disparues, mais qui continuent de briller et de rayonner dans nos cœurs, et ces cimetières qui deviennent des lieux de pèlerinage, car on y croise les fans, bien sûr, et tous ceux qui ont envie de se recueillir. Un beau cimetière, une tombe chargée d'émotions, c'est un but de promenade comme un autre, écrit-il. Thierry, bonjour.
Bonjour Manu.
Est-ce que toi, t'as analysé un peu cette obsession, un peu, on pourrait dire?
Bon, bah alors, il faut savoir que j'ai quand même une formation d'historien universitaire, donc ça explique peut-être cela. Ça veut dire que j'ai peut-être quelque part l'envie de sauvegarder un patrimoine, en l'occurrence funéraire. J'ai d'abord, comme tu l'as rappelé, commencé par faire toute une exploration du patrimoine funéraire belge. Pas seulement des artistes, mais aussi des politiques, des scientifiques, des industriels. Et puis, ce que j'aime bien dans toute cette aventure, c'est le côté ludique. Parce que, qu'on le veuille ou non, la recherche d'une tombe, ça parent très souvent à un jeu de piste. Et lorsqu'on retrouve une tombe qu'on cherche depuis très longtemps, évidemment, la tombe de Dalida, tout le monde la trouve facilement. Elle est quasiment fléchée. Mais je veux dire, quand vous trouvez une tombe moins connue, c'est un côté jouissif. Bon, c'est pas Indiana Jones devant le calice du Graal, mais quand même, ça fait plaisir.
Comment est-ce que tu as choisi les personnalités? Quels sont les critères un peu qui t'ont guidé dans ta sélection?
Bah, il y avait évidemment des incontournables. Bon, moi je suis grand fan de Johnny, il devait y être. Dalida aussi parce qu'elle a une tombe très spectaculaire. Luis Mariano parce que sa tombe est très très souvent fleurie. Je pouvais pas en tant que cinéphile ne pas mettre des pointures comme Ventura, comme Bourville, comme De Funès. Mais j'ai voulu aussi faire découvrir au lecteur toute une série de personnalités moins connues, voire beaucoup moins connues. Alors, je le confesse, c'est un choix totalement subjectif et arbitraire. J'ai sélectionné 300 noms. Je précise d'ores et déjà que je sortirai bientôt parallèlement une version extended, si j'ose dire, avec presque 3000 noms. Où là, j'ai quand même un peu la prétention d'avoir été quasiment exhaustif sur ce sujet. Et donc, j'aime bien aussi raconter des personnes qui ont eu une destinée un peu romantique ou romanesque, mais parfois aussi même un peu tragique. Et j'ai une tendresse particulière pour les acteurs de second rôle, pour les cinéastes qui ont commis quelques navets, ou pour des starlettes qui ont été des étoiles filantes de l'histoire du cinéma et qui ont des histoires incroyables.
Voilà, un peu série B, ouais. Réalisateur de nanar, tu cultives ouais. Un peu le navet, Thierry, avec
ouais.
Eux.
Ouais, j'ai une très grande tendresse pour le navet, qui a ses lettres de noblesse, évidemment, au frontispice de l'anthologie des navets français. On mettra Philippe Clair et Max Pékin. J'ai eu aussi la chance de côtoyer dans ma vie au Sénégal Jean-François Davy, qui lui a fait des navets, mais a fait aussi des navets érotiques. Il était un peu le pionnier du genre, puis il a fait des vrais films porno.
Oui, il a même fait, moi je l'avais rencontré pour Les Aiguilles Rouges, il a fait aussi des longs métrages, on va dire grand public et sérieux.
Il a fait des films entre guillemets normaux. Il avait fait une comédie qui s'appelait Chaussettes Surprises, je me rappelle, avec Bernadette Lafont. Et il se fait que Jean-François Davy.
Tout un programme.
Tout un programme, Jean-François Davy. Il avait un hôtel au Sénégal où je vivais de temps en temps. Et on a passé des soirées à se poser des questions sur l'histoire du cinéma. Donc je voulais lui rendre hommage parce qu'il nous a quittés récemment. Il est enterré en Normandie. Et voilà, donc c'est tout des gens un petit peu particuliers. Puis alors, bon, il y a des trucs incroyables. Il y a une actrice qui s'appelait Christine Kaufmann, qui est née d'un père allemand et d'une mère doctoresse française. Et par les hasards de la vie, elle s'est retrouvée à jouer dans la version filmée de L'Auberge du Cheval Blanc alors qu'elle était tout ado. Et puis, de casting en casting, elle a joué avec Belmondo et elle s'est retrouvée dans une super production hollywoodienne avec Tony Curtis qui est tombée red dingue d'elle. Et il a quitté sa femme qui était la fameuse Janet Leigh, la magnifique Janet Leigh, celle qui se fait assassiner dans Psychose. Et donc, elle est allée faire une petite carrière à Hollywood, mais ça n'a pas duré. Et alors, elle est vite revenue en Allemagne où elle est devenue une femme d'affaires après avoir joué dans quelques films de Fassbinder. Donc c'est une trajectoire absolument incroyable. Et pour être tout à fait étonnant jusqu'au bout, si j'ose dire, Elle est inhumée dans le caveau de la famille maternelle, à Vernon, dans l'Eure, en Normandie. Donc voilà, c'est le genre de destin que j'aime bien raconter.
Est-ce qu'il y a une tombe qui t'a particulièrement ému ou surpris lors de tes recherches? Tu t'y attendais pas et là, tu t'es dit, là franchement, il y a un truc à raconter. C'est vraiment voilà, surprenant.
Ben évidemment, la première fois qu'on voit la tombe de Dalida, c'est un petit peu étonnant, comme avec cette statue qui a été faite par Artan, hein, qui est un grand artiste. Ben, elle est un petit peu à l'image flamboyante de la star qui était Dalida. J'avais été un peu déçu la première fois que j'ai vu la tombe de Louis de Funès au Cellier, hein, pas loin du château de Clermont où il habitait. J'avais été voir le château aussi d'ailleurs, parce que je suis très fan de Funès. La tombe n'était pas super bien entretenue. Je pense que maintenant qu'il a été rejoint par son épouse, qui est morte plus que centenaire, la tombe est beaucoup mieux entretenue. Et puis alors, évidemment, côté Belges, ça va moins parler au public français. Il y a des tombes d'artistes belges que j'ai très bien connus, avec lesquels j'ai travaillé. C'est forcément très émouvant. Il y a un chanteur qui avait un talent fou, qui n'a malheureusement jamais vraiment percé en France, malgré quelques tentatives. C'est Pierre Rapsat, qui est enterré.
Ouais, je connais pas.
Ouais, non, Pierre Rapsat, c'était vraiment le leader de la scène rock francophone en Belgique, mais il n'a pas eu l'opportunité de conquérir le marché français, contrairement par exemple à Moran ou à Axel Red à l'époque.
Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des différences entre les cimetières français et les cimetières belges? Et en termes de relation aux stars et à la mémoire?
Oui, parce que je trouve qu'en Belgique, il y a une petite carence qui est un peu regrettable, c'est qu'on n'indique pas beaucoup, mais ça vaut même en dehors de la catégorie spécifique des artistes, on n'indique pas beaucoup leurs titres et qualités. Bon, par exemple, la tombe de Moran au cimetière d'Auderghem, d'abord, elle est enterrée sous son vrai nom, Claudine Leupartz. Bon, ça, c'est son droit, mais c'est pas très fréquent. Hein. Les artistes français sont souvent enterrés sous leur pseudonyme ou nom d'artiste. C'est une tombe un peu banale. Moi, je souhaiterais quand même qu'elle soit davantage valorisée. J'ai été très déçu aussi. Là, on est dans un très bon exemple franco-belge ou belgo-français avec Annie Cordy. Annie Cordy dans le cimetière à Badi, qui est pas un très beau cimetière à Cannes. C'est le nouveau cimetière de Cannes. L'ancien, c'est le cimetière du Jas. J.A.S. où il y a Martine Carole. Ben, Annie Cordy, elle a un caveau de famille assez banal avec toutes des tombes qui se ressemblent à l'infini. Moi, j'y suis été une tombe, allez, entre guillemets, un peu plus joyeuse, je sais pas, avec quelque chose sur la tombe qui rappelle un peu la fantaisie.
Qui lui ressemblerait plus.
Qui lui ressemblerait plus. Et en tout cas, moi, j'aurais mentionné qu'elle est baronne. Parce qu'elle a quand
même été anoblie. Oui, elle a été anoblie, absolument.
Elle a été anoblie par le roi. Je crois que c'était le roi Albert à l'époque. Et voilà, ça ne l'est pas mentionné sur sa tombe. Voilà, petit regret au passage, quoi.
Alors, Thierry, tu l'écris donc des stars à des degrés divers. Donc voilà, explique-nous un petit peu voilà, il y a une disparité dans la postérité des célébrités.
Oui, dans la postérité, dans la notoriété, évidemment. C'est pour ça que c'était un choix tout à fait arbitraire. Et puis il y a des stars qui n'ont pas pu être dans mon livre parce qu'ils n'ont pas de tombe. C'est le cas de Jean Gabin, dont les cendres ont été dispersées au large de Brest, de Michel Piccoli, de Jean-Paul Belmondo. Et puis alors, Manu, il y a quelque chose qui m'a frappé en préparant ce bouquin, parce que ça a été un travail de très très longue haleine, tu t'en doutes. Il a fallu faire énormément de recherches avec les mairies, avec les pompes funèbres, parfois avec les descendants des familles qui ont joué le jeu, quand je ne retrouvais pas l'information. Ce qui m'a frappé quand même, et ce n'est pas très reluisant pour l'histoire de France, c'est qu'il y a quand même pas mal d'artistes qui se sont compromis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je savais que ça existait.
Mais ça, tu l'as noté, tu l'as vraiment touché du doigt, ça, cette dimension.
Franchement, oui. Bon, il y a le cas très célèbre d'Arletty, hein, l'incarnation de la collaboration horizontale, qui avait valu cette fameuse réplique « Mon cœur est français, mais mon cul est international ». Il y en a même une autre de réplique concernant Arletty, mais elle est tellement belle, je me demande si elle n'est pas de Janson plutôt que d'elle. Il faut quand même pas oublier qu'Arletty, elle a été incarcérée à la prison de Fresnes, et qu'à un moment donné, elle n'était pas trop trop bien, et une des co-détenues lui avait dit « Mademoiselle Arletty, comment vous sentez-vous » Et elle avait répondu avec malice « Pas très résistante ». Bon, ça, Arletty, c'est un cas très célèbre. Bon, il y a toujours eu aussi un petit peu des questions autour de Suzy Delair, d'Albert Préjean, de Maurice Chevalier. C'est-à-dire qu'il y avait deux problèmes. Ce sont des gens qui n'ont pas arrêté de travailler pendant la guerre. Et il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices, Daniel Darieux, qui ont travaillé pour La Continentale, qui était une société de production allemande. Là, je vais faire un petit cocorico un peu chauvin, liégeois, mais on a une très grande comédienne qui s'appelait Berthe Bovy, qui était la femme de Pierre Frenet, qui est enterrée à Liège. Mais elle, par exemple, elle était sociétaire brillante et connue et reconnue de la Comédie française. Eh bien, elle a refusé de partir en tournée en Allemagne avec la Comédie française. Tout le monde n'a pas eu cette même attitude digne.
Oui, alors Suzy Delair, qui est morte plus que centenaire, hein, voilà. Et puis il y a aussi Ombre et Lumière, Sacha Guitry, qui lui aussi a beaucoup tourné. Il était sur scène au théâtre, etc. Donc là, il y a beaucoup de choses, hein, qui.
Alors. Guitry, c'est un cas particulier. Il y a eu quelques petits ennuis à la Libération. D'ailleurs, personne n'est dupe dans le chef-d'œuvre de Truffaut, Le Dernier Métro. Le personnage de Poiré a quand même quelque chose de Guitry quand on voit qu'il est arrêté, puis relâché, puis réarrêté. Je pense que Guitry, il a été plus maladroit que vraiment collabo. Il a fait des conférences un peu pro-Pétain et donc dans le climat de l'époque, ça a été très très mal vu. Mais il a été assez vite réhabilité. Et puis, ceux qui veulent voir la tombe de Guitry, c'est très facile. Quand vous entrez dans le cimetière Montmartre, il est directement à droite avec son père, hein, qui a été aussi un grand comédien, Lucien Guitry. Il faut savoir que le Guitry d'origine russe et que son parrain est un tsar. Il y a quand même beaucoup, peu de gens qui pouvaient s'enorgueillir d'avoir un parrain qui était tsar. Et puis, pour terminer sur Guitry, 5 fois marié avec 5 comédiennes.
Voilà, effectivement, beau parcours. Et il y avait une de ses épouses, je crois, qui a dit « Enfin, enfin, raide
oui. !» C'est assez célèbre, oui, en effet, oui.
Bon, Thierry, qu'est-ce que ça t'a appris, justement, cette quête, qui n'est pas finie d'ailleurs, hein, tu poursuis, peut-être sur ta propre existence. On disait tout à l'heure, on parlait un peu d'introspection. Est-ce que ça t'a révélé des choses, ou est-ce que tu te sens à l'aise avec cette exploration?
Moi, je pense qu'une star populaire doit avoir une tombe pour que ça puisse servir de lieu de pèlerinage. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il a envie d'être dispersé, c'est son droit, évidemment. Il y a aussi les cas particuliers d'Alain Delon et de Sacha Distel, qui sont tous les deux inhumés dans une propriété privée, ce qui est autorisé avec l'autorisation préfectorale, hein, je le précise, en France. Mais moi, je pourrais imaginer quand même, je pense que la famille y a déjà pensé, qu'on pourrait avoir un jour par semaine, par exemple, le droit de visiter la chapelle où repose Alain Delon, qui a quand même été une immense star. Et j'ai aussi beaucoup voyagé dans le monde entier pour voir des cimetières, parce que c'est une passion chronophage et dévorante. Et par exemple, à Los Angeles, on ne peut pas voir la tombe de Michael Jackson ni d'Humphrey Bogart, par exemple, qui sont dans des parcelles privées. C'est un peu paradoxal dans la mesure où un des monuments les plus visités de tous les États-Unis, c'est la tombe d'Elvis Presley dans sa villa de Graceland. Donc voilà, il y a un petit deux poids, deux mesures qui moi me dérange, et j'ai été très frustré de ne pas voir le mausolée de Michael Jackson. J'ai essayé, mais c'est impossible.
Alors, puisque tu parles donc de stars américaines, moi, quand je suis allé à Los Angeles, je suis allé, alors c'est pas des tombes, hein, ce sont des petites voilà, exactement, des petits caveaux où il y a la plaque. J'ai vu celle de Marilyn Monroe, j'ai vu Frank Sinatra, Sammy Davis. Donc voilà, quand tu pour toi, ça fait partie du répertoire, on peut les prendre en compte ou pas?
Ah ben oui, parce que Marilyn Monroe, c'est extraordinaire. C'est un cimetière qui est minuscule, qui est en plein centre-ville. C'est le Westwood Village Memorial Park, où il y a un Français, ne l'oublions pas. Puis il y a le grand Louis Jourdan.
Oui, jeune premier, séducteur, voilà.
Qui a fait une carrière magnifique. Il a même joué dans un James Bond où il jouait le rôle du méchant. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéresseraient à Louis Jourdan, Olivier Mine, qui est aussi belge, ne l'oublions pas, le célèbre animateur de télévision, a commis il y a 2 ans une magnifique biographie. Il avait rencontré en fin de vie Louis Jourdan, qui vivait à Hollywood. Et dans ce cimetière, donc, Marilyn Monroe, ce qui est assez cocasse, si j'ose dire, c'est que la personne qui a été... parce que c'est quand même un cercueil, hein, ça a l'air d'un columbarium, mais...
Oui, quand on regarde, c'est, ouais, on a l'impression.
Oui, mais en fait, c'est ce qu'on appellerait en France un enfeu, c'est-à-dire qu'on met le cercueil dans cette case en l'ouvrant, et donc, il y a 2 anecdotes. La personne qui s'est fait inhumer au-dessus de Marilyn Monroe a voulu l'être sur le ventre. Tandis que la case qui est à côté encore aujourd'hui de celle de Marilyn Monroe, Hugh Hefner a payé 350 000 dollars pour avoir la postérité et à côté de Marilyn. Donc je rappelle que c'est le patron fondateur de Playboy.
Voilà, et Marilyn qui avait démarré sa carrière à la une de Playboy, hein, il faut le rappeler.
C'est vrai, absolument, et alors elle ne voulait pas qu'un seul représentant d'Hollywood soit présent à ses funérailles. Et Joey DiMaggio, le grand champion de baseball qui avait été, je crois, son deuxième mari, y a veillé strictement, donc il n'y avait personne d'Hollywood en 62 à ses funérailles. Et Joey DiMaggio raconte qu'il est allé fleurir la tombe toutes les semaines pendant de très longues années.
Thierry, je le disais en introduction, tu es aussi chroniqueur sportif, tu as fait un documentaire sur les coulisses du foot. Notamment, ça fait deux passions qui sont de part et d'autre du spectre, entre culture populaire et sport, voilà. Mais tout ça se réunit et ça fait un beau cocktail.
Et j'en ai même une troisième, puisque je fais des spectacles sur scène.
Ah oui, c'est vrai que tu chantes.
Ouais, je chante en hommage à mon idole, Johnny Hallyday. D'ailleurs, il faut quand même que je dise un petit mot de la tombe de Johnny, puisque je suis allé la voir.
Oui, ça, c'est important. Ouais. Beaucoup de fans, Johnny.
Ouais, alors, bon, d'abord, là, on peut regretter que ce soit si loin. Hein. Je crois que les fans ne soient pas très contents. Moi, j'imaginais, dans ma candeur naïve, qu'il allait être enterré à Marne-la-Coquette, là où il est décédé, qui est un beau petit cimetière, où il y a Maurice Chevalier et Daniel Darieux. Mais bon, voilà, il a choisi Saint-Barth. Ça aurait pu être encore plus loin avec Los Angeles. Et c'est une tombe, franchement, qui m'a un peu déçu parce que, bon, le cimetière est très atypique, évidemment, puisque c'est un cimetière front de mer sablonneux, c'est tout à fait incroyable, mais sa tombe est un peu trop chargée, à mon goût, en fleurs et en amulettes diverses. Elle la rend plus kitsch que rock'n'roll. Dans le même périple, j'avais poussé jusqu'aux Caraïbes pour aller voir la tombe de mon autre idole, Bob Marley. Là, par contre, j'ai pas été déçu parce qu'il y a tout un décorum dans son village natal à Nine Mines qui est absolument incroyable, sachant que tous les 10 mètres, évidemment, on vous propose à $20 de fumer un petit spliff, ce que j'ai décliné, évidemment, mon cher Manu.
On s'arrête peut-être sur Claude François parce que j'ai vu une statue et ça a été offert par un fan club belge de Claude François.
Le fan club.
L'unique.
Je crois que c'est le fan club officiel belgique de Clo-Clo. C'était, je pense, pour le 10e anniversaire de sa disparition. Et juste à côté, il y a même un petit buste qui représente Choufa, hein, c'était son surnom, la maman de Clo-Clo, puisque ses parents sont enterrés à côté de lui. Bon, là, évidemment, c'est aussi un incontournable. Et alors, ce qui est assez, entre guillemets, cocasse, c'est que dans ce petit cimetière de Danois, pas tellement loin de son moulin, hein, c'est à la sortie du village, dès que vous rentrez dans le cimetière, vous ne voyez que ça, la statue qui est dans le fond. Et là, on voit bien que c'est un lieu de pèlerinage et que c'est très, très fleuri, comme Luis Mariano, comme Daniel Balavoine à Biarritz, ce sont des gens qui ne sont pas oubliés, et tant mieux.
On voit une rose là qui est glissée sur la statue de Claude François. Donc il y a vraiment une ferveur qui ne faiblit pas.
Moi, j'ai une ferveur très particulière. Je suis très fan de François Truffaut. Et chaque fois que je vais au cimetière Montmartre, ça m'arrive quasiment tous les ans, je vais déposer un petit ticket de métro, même si maintenant il n'y en a plus, sur la tombe de Truffaut, en hommage évidemment au dernier métro, qui est un des films qui m'a plus bouleversé, qui a eu 7 Césars, je le rappelle. Et ce que je trouve aussi assez troublant, c'est qu'à 10 mètres de Truffaut, il y a Jeanne Moreau, qui a quand même été un peu sa marraine de cinéma. Et c'est que je trouve quand même parfois symboliquement des choses incroyables. Au même cimetière Montmartre, Michel Berger repose avec France Gall, et à 10 mètres, il y a son papa. Jean Hamburger, mais il ne se parlait plus, puisque Jean Hamburger a décidé du jour où son fils est devenu saltimbanque à l'âge de 16 ans, lui qui était un très grand professeur de médecine, il l'a complètement renié. Donc c'est parfois des trucs un peu bizarres qui se passent post-mortem.
Bon, alors le Père Lachaise, il y a de belles célébrités et ça fait couler de l'encre parfois, parce que sur les tombes, il peut se passer des choses bizarres, Thierry.
Ah, il y a une littérature entière là-dessus, sur la vie nocturne au Père Lachaise. J'ai entendu parler de d'orgies, de bacchanal, évidemment la tombe de Jim Morrison, mais pas que, hein. On parle aussi de la tombe de Sarah Bernhardt. J'ai vu personnellement un jour une personne qui était en transe sur la tombe d'Alan Kardec, ce spirit breton, une dame qui était avec sa main posée sur le dolmen et qui était littéralement en transe. C'est assez incroyable. Et puis évidemment, il y a la tombe, et là je sors un tout petit peu de mon sujet stricto sensu, il y a la tombe de Victor Noir, qui est ce journaliste qui est mort en duel avec le prince Napoléon, qui est un gisant représenté de façon extrêmement réaliste, en ce compris une magnifique érection. Et ce qui fait que les dames vont caresser ce sexe virtuel, mais on voit que c'est complètement patiné par rapport au reste de la peinture de la tombe.
Voilà, il est poli. Hein.
Il est très poli.
Mon cher Thierry, alors tu l'as évoqué, Jim Morrison, parce que là, il paraît que le buste est de retour. Ouais. Il aurait été retrouvé, il avait disparu pendant de nombreuses années.
Incroyable, il a été totalement par hasard retrouvé au détour d'une perquisition, je crois, de la police judiciaire parisienne. Mais j'étais au Père Lachaise il n'y a pas longtemps, il n'est pas revenu sur la tombe.
Il n'est pas encore de retour au Père Lachaise.
Non, il n'est pas effectivement de retour. Alors moi, j'ai un petit problème avec la tombe de Jim Morrison, parce que c'est la tombe la plus visitée. Il y a des gens qui vont au Père Lachaise que pour ça. Bon, il est mort en 71, donc ça fait quand même quelques années, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir la tombe de Jim Morrison, mais qui ne savent pas qui c'est, et qui ne savent plus qui c'est, parce que, bon, les Doors, c'est vrai, ça a été, moi, ça me parle, mais voilà, enfin, donc il est en tout cas visiblement pas tombé dans l'oubli, et c'est la seule tombe qui est protégée en permanence par des barrières Nadar, et on voit qu'il y a un véritable culte quotidien pour Jim Morrison, et un jour, je suis retrouvé par hasard au Père Lachaise, par le plus grand des hasards, le jour de la date anniversaire de son décès, et là, il y avait beaucoup de monde.
Thierry, ton livre, il est décrit comme un guide pratique. À qui est-ce qu'il s'adresse? Quel message tu as envie de transmettre à travers justement ces pages et ces focus et ces notes vraiment très précises?
Alors ça, c'est une bonne question parce que je me suis aperçu qu'il y a un tourisme funéraire, si j'ose dire. Pour être accord avec le Père Lachaise, c'est le cimetière le plus visité dans le monde. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre de guides qui sont là. Ils sont pas tous très bons. Je dis tout de suite aux gens, méfiez-vous. Il y a des très bons, mais il y a des pas bons. Donc, je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent parce que moi, je donne pas mal de conférences. Et les gens, je parle avec les gens, j'aime bien les rencontrer. Et ils me disent, quand on va en vacances quelque part, il faut qu'on aille voir un cimetière. Et a fortiori, s'il y a une personnalité célèbre dans le cimetière de cette commune ou cette ville. Donc, je pense qu'il y a public pour ça, qui est un public à mon avis de plus de 40 ans, mais j'ai déjà eu un petit succès avec ma série sur les Belges, donc ici j'ai une sortie sur la France, j'espère que je vais intéresser toute une série de cinéphiles, et je répète qu'avec ma version qui sera uniquement vendue en ligne, celle-là pas en librairie, avec les 3000 noms, Star pour toujours, ben là j'aurai pour les cinéphiles et les tafophiles, puisque c'est le terme peu connu qui désigne quelqu'un qui aime les tombes, d'ailleurs c'est du grec taphos philos qui aime la tombe, j'espère qu'eux ils auront vraiment la possibilité d'aller voir un peu partout dans l'hexagone la tombe de quelqu'un qu'ils recherchent.
Bon Thierry, est-ce qu'il y a une star vraiment, on t'a parlé de Johnny dont tu es très fan, mais est-ce qu'il y a vraiment une star dont la tombe t'a frappé, t'a marqué et qui est vraiment une singularité, une originalité, voilà, une chose peut-être à laquelle tu ne t'attendais pas?
Honnêtement, celle qui est la plus imprévisible, c'est Bob Marley, parce que il est dans une sorte de mausolée, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucune photo. Donc je défie quiconque de trouver une photo de la tombe de Marley sur Internet, ça n'existe pas, et parce que c'est strictement interdit et que vous avez des cerbères un petit peu édentés vu la consommation importante de ganja quotidiennement, mais qui sont pas là pour rigoler et qui vous répètent inlassablement « no picture, no picture ». En plus, il y a tout un décorum et un protocole parce qu'il faut se déchausser avant d'entrer dans le mausolée. Donc ça, c'est quand même assez... Je ne m'attendais pas à ça, même si on me l'avait un petit peu expliqué. Il faut le vivre pour le croire.
Ton livre parle aussi de la manière dont les stars sont enterrées, parce qu'il y a aussi ça. Voilà, parfois entre grandeur, faste et puis d'autres simplicité. Qu'est-ce que ça révèle à ton avis des personnalités, peut-être de l'époque aussi, parce que ça dépend des époques également les concernant.
Oui, ça aussi révèle aussi parfois le manque d'entretien des tombes par la famille. Bon, moi j'ai vu la tombe de Garcimore, on se souviendra de ce magicien espagnol avec Denis Fabre. Oui. Bon, il a une tombe tout à fait pathétique. Mariam Auban, qui a quand même été une grande comédienne, épouse de Claude Dauphin, elle a une tombe qui n'est pas du tout entretenue au Père Lachaise. Donc moi déjà ça m'étonne, mais c'est valable pour d'autres catégories, parce que je me souviens avoir cherché au cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine la tombe d'Anatole France. Elle est dans un état lamentable, quasi illisible, et j'en avais parlé avec le conservateur du cimetière qui m'avait dit « si la famille ne fait rien, on ne peut rien faire ». Mais c'est quand même un prix Nobel de littérature, je veux dire, moi je ne conçois pas qu'on ne puisse pas préserver un patrimoine tel que celui-là. Et alors pour répondre plus directement à la question, c'est vrai qu'il n'y a pas de corrélation entre la nature de la tombe et l'importance de la personnalité qui y gît. Du verbe gésir, et donc ça varie beaucoup. Et puis alors, il y a aussi des gens qui sont complètement tombés dans l'oubli. Je sais que tu es cinéphile, Manu, mais Henri Garat, avoir un bon copain, cette fameuse chanson, Henri Garat, ça a été une star, mais énorme dans l'entre-deux-guerres. Les femmes se jetaient sous sa voiture quand il passait en voiture, tu t'imagines. Plus personne ne sait qui c'est, et il a une tombe complètement à l'abandon, au Père Lachaise. C'est pour ça que j'ai voulu aussi le mettre à l'honneur dans mon livre.
On a du mal aujourd'hui à jeter un petit coup d'œil dans le rétro, comme on dit.
Moi, j'aime bien l'idée de raviver la flamme du passé, comme je suis historien, de sauvegarder un patrimoine, en l'occurrence un patrimoine funéraire et artistique. C'est ma façon de leur rendre hommage. Je crois que les gens aiment bien aussi aller un petit peu leur rendre hommage de la sorte. J'étais récemment devant la tombe de Philippe Labreau à Montparnasse. J'ai toujours eu une très grande admiration pour Philippe Labreau, notamment pour la qualité de son éclectisme, hein, parce qu'il était journaliste, écrivain, cinéaste. Et parolier pour Johnny. Il a écrit plus de 40 chansons pour Johnny.
C'est vraiment une... Il était extrêmement polyvalent, ouais. Éclectisme de bon aloi, mais avec beaucoup, beaucoup de talent.
Ah, c'est une très, très grosse pointure. Je pense malheureusement que c'est une espèce un petit peu en voie d'extinction dans le journalisme actuel, mais c'est un autre débat. Et donc, devant la tombe de Labreau, je me suis senti obligé de chanter deux, trois chansons de Johnny, dont Ma jolie Sarah ou Pardon, je viens vous demander pardon, qui est une chanson qu'il avait écrite très tardivement sur l'album qui avait été composé par David Hallyday, qui est l'album d'ailleurs le plus vendu de Johnny. Mais là, j'étais ému. J'étais ému parce que d'abord, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. On voit d'ailleurs que sa tombe n'est pas tout à fait finie. Elle est encore extrêmement végétalisée. Il n'y a pas vraiment une dalle funéraire. Et quand j'ai chanté, il y a des gens qui sont passés, qui ont rigolé. J'ai dit, mais vous savez, je rends hommage à quelqu'un que j'apprécie.
Alors, puisqu'on parle de cet éclectisme, il a été cinéaste aussi, Philippe Labreau. Il y a le film « Moi qui t'aimais », mon temps s'ignorait. Hein. Un mot sur leur tombe.
C'est une tombe assez discrète, je trouve. Évidemment, ça peut surprendre qu'ils soient enterrés ensemble, puisque Montand avait refait sa vie avec une autre femme. Il est mort, évidemment, après Signoret. Et c'est une tombe dans une division quand même très intéressante au Père Lachaise, qui est la 44e division, puisque à 3 mètres de là, il y a Francis Lemarque, qui a écrit pour Montand et pour lui. Mais enfin, il voulait absolument être enterré tout près d'Yves Montand. Alors, juste derrière la tombe de Montand et Signoret, peu de gens le savent, mais juste derrière, il y a la tombe de Jacques Perrin, qui a quand même été un grand comédien, un très grand producteur, qui a réalisé des magnifiques documentaires, notamment Animalier. Et alors, si vous faites le virage, voilà, c'est la série des gloires, puisqu'il y a Michel Legrand, avec déjà sur la tombe le nom de Macha Merrill. C'est toujours extrêmement cocasse de voir des gens qui inscrivent le nom du conjoint qui vit toujours. En fait, en Belgique, c'est interdit dans certaines communes et accepté dans ça dépend des lois communales. Bon. Il y a le cas célèbre de Louis-Ferdinand Céline, qui s'appelait Détouche de son vrai nom, qui est mort à Meudon en 1961. Alors, il avait épousé une danseuse classique qui s'appelait Lucette Détouche, qui était beaucoup plus jeune que lui. Et sur la tombe, on avait mis Louis-Ferdinand Céline avec cette date de naissance et de décès, tiré, Lucette Détouche 1912, tiré, 1-9, et puis un blanc. Et elle est morte à 107 ans, il y a quelques années d'ici. Donc en fait, il a fallu tout recommencer, tout effacer. Bref, donc tout ça toujours un petit peu spécial. Alors, donc je termine vite cette 44e division qui est facile à trouver, elle est juste en face du crématorium. Il y a aussi Manu Dibango, et alors très émouvant, il y a la tombe de Gaspard Ulliel. Et là, on voit évidemment que comme c'est un jeune acteur, star en devenir, fauché en pleine gloire, dans les circonstances tragiques, un accident de ski, là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui vont se recueillir devant sa tombe parce qu'il y a beaucoup de fleurs. On voit que c'est une tombe qui est très bien entretenue.
Ton épitaphe, est-ce que tu y as réfléchi?
J'y ai réfléchi, je suis pas très convaincu pour l'instant. Je pars sur...
C'est encore en work in progress.
Ouais, voilà. Je pars sur un truc du style journaliste et artiste. Ce sera un petit peu dans cette direction-là.
Voilà, ce sont les deux facettes. Ben, merci beaucoup Thierry hein, pour cet échange, aussi riche qu'émouvant. Et puis c'est important, tu nous as rappelé que les stars ne meurent jamais vraiment, tant qu'elles restent dans nos mémoires, nos musiques. Et puis ouais, toi qui aimes beaucoup la chanson et nos écrans. Et puis il y a une dimension dans ton ouvrage érudite et poétique. Et puis les sanctuaires, ces sanctuaires de nos rêves, mais aussi de nos nostalgies. Donc ton livre, on le rappelle, Star pour toujours. Invitation au voyage, une façon également de célébrer ces légendes qui continuent de nous faire vibrer. Alors justement, si on veut savoir où trouver ton ouvrage et tout savoir sur ton riche et brillant parcours, Thierry, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, pour la France, l'ouvrage va être distribué notamment à la FNAC, mais pas que. Sinon, il est toujours possible aussi de le commander sur Amazon, bien sûr, et sur le site de mon éditeur Chronica, C-H-R-O-N-I-C-A à Bruxelles. Et je rappelle donc qu'il y a la version 300 noms qui est grand public, si j'ose dire. Et alors, plus pointu pour les cinéphiles et ou tafophiles, il y aura la version extended qui, je crois, approche les 3000 noms, où là, j'ai un relevé systématique de toutes les tombes des chanteurs de variété et d'opéra, que je n'ai pas voulu oublier, des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des réalisatrices et en France, en Belgique. Et alors, on n'en a pas parlé, mais c'est très important, en Suisse. Car en Suisse, il y a énormément de stars qui y sont enterrées, de Charlie Chaplin à Audrey Hepburn, en passant par David Niven.
Voilà, comment être exhaustif. Merci beaucoup Thierry Luters. Donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations culturelles. Et puis, n'oubliez pas, les stars brillent toujours, même dans l'ombre de nos cimetières. Merci à toi Thierry.
Merci beaucoup.